Une petite annonce avant le cours principal. Chers amis, dans moins d'un mois, dès le 24 août, nous rentrons dans un des grands mois de l'année, le mois de Elul. C'est marqué qu'à ce moment, Dieu vient ici sur terre et tend sa main pour qu'on revienne et qu'on fasse tchouva. À Jérusalem, c'est une expérience extraordinaire. On peut faire tchouva partout, mais Jérusalem, c'est quand même la ville sainte. Elle est Sirot HaKotel. L'année passée, 100 000 personnes sont allées. Alors on vous invite à venir passer quelques semaines ici pendant le mois de Elul pour un programme extraordinaire ici à la Yeshiva. Il y a des cours pour tous les niveaux. Vous pourrez vous préparer pour les grands jours de Rosh Hashanah et Kippour. Viens participer à cette expérience inoubliable qui sera peut-être pour toute ta vie un grand grand souvenir. Qui sait, peut-être même Mashiach viendra, vous serez aux premières loges. Ceux qui sont intéressés, alors remplissez le formulaire en description de la vidéo. Après la Shoah, les antisémites se sont tus. Ils n'ont pas disparu. Non. Nous, on veut maintenant la Palestine libre. Pauvre type. Rayons-les du nombre des nations. Que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Maurice Sportouche, Ben Marie Myriam Bezrat Hashem. On va faire un cours super important sur l'actualité. Avant-hier, un des journaux les plus connus en Amérique, New York Times, publie une photo d'un soi-disant enfant palestinien en situation de famine, tout maigre, à cause de l'embargo, soi-disant embargo israélien, à propos de la nourriture à Gaza, ce qui est le contraire. On sait qu'au contraire, Israël amène la nourriture et ferme la nourriture, et c'est le Hamas qui empêche. Ils veulent garder la maîtrise. Il s'avère, après vérification, que c'est complètement faux. Ce petit enfant de 5-6 ans, en fait, il souffre d'une maladie génétique, et il est soigné en Italie. Ils ont pris cette photo, ils ont dit non, tu vois, il est tout maigre, comme ça on voit les os carrément, à cause d'Israël. Alors, c'est pas un arabe dans la rue en France qui crie mort aux juifs, vive la Palestine. C'est New York Times, quand même, en Amérique. L'Amérique est censée être un pays en paix avec nous. L'ambassade israélienne s'est plaint. Bennett, l'ancien premier ministre d'Israël, a dit « c'est une honte. Comment un journal pareil ne fait pas une vérification avant de publier cela ?» Alors ils ont fait un rectificatif. Nul. Dans le Twitter, mais il y a un Twitter principal où il y a des millions de personnes qui vont. Là, ils n'ont rien fait. Dans un autre Twitter secondaire, ils ont mis un rectificatif. Alors, si c'était qu'une fois comme ça, j'aurais pas fait de cours là-dessus, mais actuellement, on voit, on peut dire que chaque semaine, ça devient plus intense, une résurgence extrêmement grande de l'antisémitisme. Après la Shoah, les antisémites se sont tus. Ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas disparu. Ils se taisent. Ils ont honte de dire qu'ils sont antisémites. Bon, bientôt 80 ans sont passés depuis la Shoah. Avec ce qui se passe à Gaza, où nous ne sommes pas responsables, l'essentiel de ce qui se passe à Gaza, c'est à cause du Hamas. Et j'en peux pas imaginer. Maintenant, il y a une campagne faite par le Hamas et les pro-palestiniens tellement grande que j'en commence à croire. Mais c'est du faux, ce sont des fakes. Faux, faux, faux. Israël fait extrêmement attention de ne pas toucher les civils. Alors peut-être il y a de temps en temps, on est en guerre. Mais c'est Hamas le responsable, eux qui ont commencé. Ils nous ont attaqués, ils nous ont torturés, les tortures qu'ils ont faites le 7 octobre. C'est digne, pire que Auschwitz. Quand on a montré ça, il y avait, comment ça s'appelait, Rama, je crois, cette dame, hein, Rima. Ils sont allés sur un bateau, alors on a capturé le bateau, on leur a fait voir les films que le Hamas lui-même a filmés. Réaction, propagande sioniste, franchement. Tu vois, c'est du vrai, quoi. On ne peut pas faire un cinéma de cela. Je crois que même avec GPT, on ne peut pas faire un faux pareil. Propagande sioniste. Alors que eux sont franchement les plus grands champions de l'histoire en propagande anti-sioniste. Quoi qu'il en soit, la chose grave est que les États commencent à suivre le mouvement. Et il y a une résurgence officielle de l'antisémitisme. Les gens n'ont plus honte de dire « mort aux juifs ». Et ils font l'amalgame entre Israël et les juifs. Ça revient au même. T'es juif, t'es Israël, t'es Israël, t'es juif. Beaucoup d'attaques en Europe de juifs qui n'ont rien à voir avec Israël, parce qu'ils sont juifs. Évidemment, une grande panique dans le peuple juif à l'étranger. Ils sont en Israël aussi, la situation est très difficile. Mais en France, ils ont très peur. Ils baignent dans un monde arabe. Tout le monde sait la blague que la deuxième langue la plus parlée en France, c'est pas l'arabe, c'est le français. Donc ils sont dans un milieu hostile et ils ont peur. Ils ont peur. Alors mon cours est là pour les calmer, nos chers frères de l'étranger. Évidemment, le top, c'est changer de pays. Il y a beaucoup de gens qui viennent en Israël, il y en a qui vont beaucoup qui vont en Amérique, mais pas tout le monde peut changer comme ça de pays. Alors il faut savoir que on va voir maintenant l'avis de la Torah à ce sujet. D'abord, c'est normal. Antisémitisme, ça a toujours été. La Torah a été donnée sur une montagne qui s'appelle le Horev. Et de ce jour-là, il a été surnommé Sinaï. Pourquoi c'est le sage d'Israël? Parce que Sinaï vient du mot Sina en hébreu, que dès ce jour, la haine des peuples est venue contre Israël. Donc les peuples nous haïssent, ça a toujours été. Il y en a qui nous aiment. Trump, par exemple, dernièrement, c'est phénoménal. Je crois que jamais eu un président occidental qui a été aussi amoureux du peuple juif. Mais il y en a la grosse majorité des grands haïsseurs qui ont fait beaucoup de mal au peuple juif durant l'histoire. Après la Shoah, ça s'est calmé, comme j'ai dit, mais là, ça revient. Pourquoi ça revient? Pourquoi? Parce qu'on est proche de la Géoula. Et il est écrit qu'avant que la Géoula vienne, il y aura des douleurs d'enfantement du Messie. Alors, Rabbi Abba Shaul Zatzal m'a dit, à son avis, il n'y aura pas beaucoup. Il m'a dit pas de douleur. Bon, il y aura un tout petit peu. Même un accouchement avec péridurale, ce n'est pas facile non plus. Mais il dit que le gros, ou tout, est passé déjà durant la Shoah. C'est clair que la Shoah, c'est la souffrance la plus grande que le peuple juif ait vécue de l'histoire. Ce n'est pas pour rien. C'était en pleine phase du retour du peuple juif en terre d'Israël, qui annonce l'époque messianique. Donc ce sont les douleurs d'enfantement du Messie, à propos desquelles, c'est écrit dans le traité Sanhedrin, page 98, B en haut, deux rabbanim, c'est Rabba et Oula. J'ai dit un système mnémotechnique se rappeler le nom du rabbin, c'est Oulala. Qui disent, Yete velo achmine, qui viennent, je ne veux pas être présent. Qui vient le Mashiach, je ne veux pas être présent. Parce que les souffrances qui vont précéder sa venue, ça va être terrible. Je rappelle, c'est passé dans la Shoah. Comme ça, le rabbin Sambachoul Kaverouach HaKodesh, Mati Da'ati, m'a dit comme ça, c'est mon avis. Le rabbi de Chabad aussi a dit ça. Mais bon, il y a encore les petites miettes qui restent. Entre parenthèses, c'est intéressant. Si on prend les lettres en araméen, Yete Velo Achmine, qui viennent, je ne vais pas être présent, c'est Ayatayula Chaminaï. Intéressant. On peut le dire comme ça, il faut le voir dans le texte. C'est l'ayatollah actuel qu'il y a maintenant en Iran, qui s'appelle Khamenei. Il est écrit dans le texte. C'est pas que lui. C'est Gog ou Magog. Gog ou Magog, valeur numérique 70. Tous les peuples doivent venir contre nous. Et on y est. Je pense, je peux me tromper, et je répète, tout ce que je dis maintenant, c'est ce que je pense, mais je peux me tromper, mais je peux avoir raison aussi. Évidemment, je pense que j'ai raison, et d'habitude, après, j'ai tort. Mais un beau jour, j'aurai raison. 70 peuples qui viennent en guerre contre nous. Pourquoi la campagne fallacieuse pro-palestinienne? En passant, pourquoi on voit que c'est tellement fallacieux? Dernièrement, il y a eu un massacre près d'Israël. 1300 familles druzes ont été massacrées, des civils, par les djihadistes de Syrie. Quelqu'un a bougé, quelqu'un est au courant. Il y a eu une manif. Mais j'ai vu maintenant la revue Contraste, ils ont fait une photo. On voit le nombre de personnes qu'il y a pour une manif contre Israël. La rue, elle est pleine, c'est un pont. Bondé! Et la manif pour les pauvres druzes, deux pelés, trois tondus. 1300 familles décimées. Jamais Israël a fait autant à Gaza. Jamais. Mais antisémitisme. Haine d'Israël s'est enracinée dans, pas tous les non-juifs, heureusement, mais une bonne partie des non-juifs. Enracinée depuis le don de la Torah il y a 3335 ans. Quelque chose comme ça, je ne me souviens pas exactement le chiffre. 3330 et quelques. Avant que Machiav vienne, ils doivent monter. Pourquoi? Parce que quand Machiav viendra, il va faire une sélection. Qui passe, qui ne passe pas. Les gens qui méritent, ils passent. Les ennemis d'Israël ne passent pas. Maintenant, il faut que l'ennemi d'Israël il commence à s'exprimer. On va le juger bientôt. Il va dire, mais j'ai rien fait. Mon cher ami, tu te souviens là? Un peu comme tu as parlé. Comment se fait-il que l'année passée, à la même date, il y avait les élections en France et il y avait un parti, extrême gauche, Mélenchon, dont le seul argument électoral, c'est pas l'éducation, c'est pas renforcer l'armée française, c'est pas la calcala, comment on dit, l'économie française, on parle de rien. Libérer la Palestine de l'occupant. Ça va, t'habites à 4000, 5000 kilomètres. Où est le rapport avec la choucroute? On parle d'élection française, pas palestinienne. Taré. J'irai pas en France, ça va. C'est pas normal. Alors j'explique, les prêtres, c'est oui, normal. Je dis ça à nos frères juifs qui sachent. Un, ça sera pas grave parce que les rabbinim m'ont dit c'est déjà passé durant la Shoah. Deux, c'est momentané parce que c'est bientôt la fin. Après, ils vont écoper. L'année passée, environ à cette date maintenant, avec les élections françaises, je suis allé voir le Yanouka pour autre chose. Et puis en passant, j'ai pu parler un peu avec lui, au moins 5 minutes, j'en ai profité, je lui raconte un peu ce qui se passe en France. Il m'a dit, t'en fais pas, très bientôt, il a dit, il y a un an déjà, ma chère vient, va s'occuper d'eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué, l'ifne shever gaon. Avant la brisure, gaon, c'est la surélévation. Dieu va surélever les ennemis d'Israël, comme il a fait avec Haman. Haman, il a été pendu, lui et ses 10 fils. Mais exactement 24 heures, moins de 24 heures auparavant, il est invité une deuxième fois en repas spécial avec le roi et la reine. Et il sort et dit, mais c'est extraordinaire, la première fois il sort, mais c'est extraordinaire. Je suis riche, j'ai beaucoup d'enfants, je suis le seul à être invité avec le roi et la reine. Ah, il est au top du top du top. Moins de 24 heures plus tard, pendu. Idem, nos ennemis, qui aujourd'hui sont des menteurs, et à cause de leur haine d'Israël, qui, comme on verra tout de suite, est une haine de Dieu, nous attaquent. Maintenant, nous pensons que la fin est très proche. Comme le dit Yanouka il y a un an, il a dit « Bientôt vient Mashiach ». Rabbi David Abou Hassera, il y a un an aussi, il a dit, un ami à moi, il a dit « La Géoula est très, très, très proche ». On y arrive. Et moi, je vous dis, on le voit de nos yeux. C'est phénoménal, parce qu'un Français moyen, il ne peut pas voir ce que je vais vous dire maintenant, mais nous qui voyons de l'extérieur, et on sait que Dieu existe, et on sait qu'est-ce qui se passe et vers quoi on va, c'est tellement obvious, tellement évident. La France, Macron, a décidé d'annoncer l'indépendance de l'État palestinien. Avec l'Angleterre, d'ailleurs. Il y a quelques jours. Ils veulent faire ça au mois de septembre, je crois. Bibi lui a dit, tu comprends pas, enfin, tu aides comme ça le terrorisme. Nous, on aimerait bien qu'il y ait un État palestinien, mais dirigé par des gens bien. On avait conquis Gaza, on a rendu Gaza pour avoir la paix. Hamas est venu, des terroristes, de la pire espèce, qui vont contre leur peuple lui-même. C'est aujourd'hui qui empêche la nourriture d'arriver aux Arabes de Gaza. Si tu dis maintenant État palestinien avec eux comme dirigeants, est-ce qu'il n'y a pas d'autres, tu dis je suis pour le terrorisme. Terrible. Terrible. ils seront jugés pour cela. Et on le voit comment. C'est ça que je suis en train d'expliquer, que nous, on voit ce qui se passe. Trump a fait un ultimatum à Poutine de 50 jours. Si dans 50 jours, tu ne veux pas un cessez-le-feu avec l'Ukraine, je mets des impôts douaniers contre les pays qui prennent de l'essence chez toi. 60% de l'économie russe, c'est l'essence. Les pays les plus visés, c'est l'Inde et la Chine. S'ils vont prendre de l'essence en Russie, pour tous les articles qu'ils enverront en Amérique, ils auront un impôt de 100% de douane. Normalement, ils vont arrêter. Ils vont prendre l'essence dans d'autres pays, ça ne manque pas. Et la Russie, vu que 60% de son économie, c'est l'essence, le pétrole, sera en très mauvaise posture. Déjà, ils sont proches d'une faillite. Il y a 3 jours, Trump a dit, c'est trop long, 50 jours. Je raccrochis à 12 jours. Il ne reste plus que 9 jours maintenant que je vous parle, jeudi 6 av. Je ne connais pas la date. Je crois en 1er août, on est déjà
31
juillet. Il ne reste plus que 9 jours. Trump n'est pas seul. Le Congrès, et les républicains et les démocrates sont avec lui et font pression sur lui. Qu'est-ce qui va se passer dans 9 jours? Ou bien Poutine, il dit, ok, c'est bon, je fais un cessez-le-feu. Et la majorité des journalistes écrivent, faut pas rêver. Et ils ont déjà dit, les Russes, nous continuerons notre politique sans rien changer. Et au contraire, nous allons faire des attaques préventives sur l'Europe. C'est quoi attaque préventive? Tu veux attaquer l'Europe préventive pour dire, non, c'est moi, je fais une prévention pour qu'ils sachent, pas m'embêter. Il y a 2-3 jours, un des chefs des renseignements généraux en France a dit, la première cible qui va attaquer en Europe, c'est nous, la France. Pourquoi? Parce que le leader européen contre Poutine, c'est Macron. Alors tu vois d'un coup que le leader des anti-israéliens pro-palestine, c'est Macron. Et tu vois que l'ennemi numéro un que Poutine va attaquer, c'est la France. Eh, il ne faut pas être aveugle. Il y a un bon Dieu sur Terre. Il te prépare maintenant la raclée de la raclée. Poutine, c'est pas que des missiles, hein? Parce que si on envoie des missiles, et c'est ce qu'il va faire Macron, il va renvoyer des missiles sur la Russie. Ah, tu joues avec moi. Ping, le petit bouton. Ce sera d'abord des petites bombes atomiques tactiques. Puis après, s'il faut, le grand boom, terminé. On est au bord d'une guerre mondiale. Un des grands chefs, je crois que le grand chef, c'est le grand chef des armées de l'OTAN, a dit, s'il y a une guerre mondiale, troisième guerre mondiale qui commence, elle commencera comment? C'est la Chine qui va pousser Poutine à rentrer en guerre contre l'Occident pour qu'elle puisse ouvrir un deuxième front, être moins embêtée par l'Amérique pour conquérir Taïwan. Et moi j'ai rajouté, aujourd'hui ils en parlent déjà, et les Iraniens eux-mêmes en parlent. Il y aura aussi un nouveau front, troisième front avec l'Iran. Je vous rappelle que le Midrash dit, j'en ai parlé dans mes cours dernièrement, il y aura un conflit, une querelle, on va dire, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui existe depuis des années. L'Arabie Saoudite va prendre conseil aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu le G7. Alors, Trump est sorti de façon tout à fait incongrue et pressée du G7. On ne sait pas pourquoi. J'ai su que c'était parce qu'il a reçu un message de l'Arabie Saoudite. Attention, l'attaque israélienne avait déjà commencé avec l'Iran. Il a reçu un message de l'Arabie Saoudite. Nous savons que l'Iran veut nous attaquer à nous. L'Arabie Saoudite en tant qu'ami de l'Amérique. Alors Trump il a dit, ok c'est bon, on se calme, venez on va discuter. Je vous donne 2 semaines de discussion. Il m'a dit à Israël d'arrêter la guerre. Non, ça je ne peux pas leur dire. Ça s'est calmé. Et il y a eu la fin de la guerre, cessez le feu. Le Midrash continue et dit, Choser Meler Paras, revient le roi de Perse, donc l'Iran, et détruit le monde entier. Comment la Perse peut détruire le monde entier? C'est pas compliqué. Ils attaquent les terrains pétrolifères de l'Arabie Saoudite. Et il ferme les 3 d'Hormuz, avec ça, le monde s'écroule. Du point de vue économique, c'est la fin. Ils le savent. Donc, vraisemblablement, il y aura trois fronts, et un des commandants, un des responsables du Pentagone en Amérique a dit, s'il y a 3 fronts, on ne pourra pas faire face. C'est trop pour nous, l'Amérique. On ne pourra pas faire face. Et si moi je l'ai entendu, à plus forte raison que la Russie, l'Iran et la Chine l'ont entendu. Donc on est au bord d'une guerre mondiale. Si Poutine, dans 9 jours, dit « Ok, j'accepte un cessez-le-feu avec l'Ukraine », alors on est sauvé. Sinon, on part en guerre mondiale. J'espère qu'il n'y aura pas. Les textes parlent de 2/3 de l'humanité qui disparaissent. Aujourd'hui, c'est fini. Ce n'est pas des tanks, c'est des bombes atomiques. Ils y arriveront. Poutine. Poutine, ce n'est pas un type qui va hésiter. Il a dit déjà souvent, j'hésiterai pas s'il le faut. Non. Nous, on veut maintenant la Palestine libre. Pauvre type. T'as oublié qu'il y a le Dieu d'Israël. T'as oublié que tu es un menteur. Au moins, les chefs d'État, ils doivent savoir par leur système de d'entraînement à quel point c'est tout des fakes, c'est faux, c'est complètement faux. Oui, non, mais... Bon, je ne sais pas quels sont ces... Avec le leader, si Trump, il est pour Israël, moi, je suis pro-palestinien, je suis aussi quelqu'un. Je ne sais pas comment, mais en fin de compte, tous les peuples viendront contre nous. Ça s'appelle Gog ou Magog. Quand, comme je dis, d'après les grands d'Israël, c'est très proche, le Gaon de Vilna, il a dit que Rosh Hashanah, ça sera la fin de la sentence des ennemis de Dieu. Rosh Hashanah, c'est moins de 2 mois. Peut-être cette année. Ça correspond bien parce que juste après, à Sukkot, c'est écrit qu'à Sukkot aura lieu la guerre de Gog ou Magog. Mais dans Hachem, tout ira très bien pour nous. Il faut néanmoins se rapprocher de Dieu. On a un verset dans Yoël. Yoël, c'est 4 chapitres. Tous parlent de la fin. Fin du chapitre 3, il y a un verset qui est presque incompréhensible. Et le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs de la Bible, explique et veut donner son explication. Je vous lis le verset. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants à ceux qui lira le Seigneur. Ma Bible m'explique qu'il y aura 2 endroits. La terre d'Israël, Jérusalem et Sion, c'est tout Israël, où tout le monde sera sauvé. Le reste du monde, que ceux qui vont invoquer le Seigneur, ceux qui vont se rapprocher de Dieu. Donc mon message à nos frères français et autres dans le monde entier. En Israël aussi, bien sûr. Mais n'ayez pas peur, rapprochez-vous de Dieu. Dans notre paracha maintenant, de Dvarim, un des premiers versets de la... je crois le 8e verset de la paracha, c'est dit « Tulachem Safona, tournez-vous vers le nord. » Comme ça, Dieu a dit au peuple d'Israël. Le Midrash dit « Safon, c'est le nord, c'est aussi ce qui est caché. Cachez-vous. N'allez pas réveiller tout le monde maintenant à faire des combats dans la rue, pro-Palestine, pro-Israël. » Et il y a un verset aussi qui appelle Safon la Torah, qui est caché aussi, Tushia. Étudiez la Torah, rapprochez-vous de Dieu, faites des mitzvot, et vous serez sauvés, Bezrat Hashem. Comme le texte le dit, comme la réalité juive l'a toujours prétendu, et maintenant on est à la fin, c'est fini. Il n'y aura plus de Shoah, il n'y aura plus de pogrom, il n'y aura plus... C'est terminé tout ça, on est à la fin. Dieu fait monter, comme je dis, les Feneshev et Gaon, avant la brisure, la surélévation des forces du mal. Alors ils montent, mais ils vont tomber très très fort. Et je vais vous lire maintenant, je crois qu'on finira avec cela, les Tehilim. Tehilim 83, que on peut dire, je crois, le Tehilim le plus adapté à ce que nous sommes en train de vivre, qui raconte ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas lire en entier, mais je vais en lire plusieurs versets. Alors on commence depuis le début. Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, n'arrête plus ton action, ne garde pas le silence. Ne reste pas en repos, ô Tout-Puissant. On demande à Dieu de commencer à s'exciter. Car voilà tes ennemis qui s'agitent en tumulte. Tes adversaires qui lèvent la tête. Ennemis de Dieu. Adversaires de Dieu. C'est qui ceux-là? Contre ton peuple, ils ourdissent des complots. Ils se concertent contre ceux que tu protèges. Les ennemis de Dieu, c'est l'ennemi d'Israël. Comme ça, les sages d'Israël apprennent de ces 2 versets-là. Tu dis à Dieu, tes ennemis, et tu dis, qui c'est ceux qui veulent la perte d'Israël? Ils disent, allons, rayons-les du nombre des nations, que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. Combien de millions de goïms aujourd'hui aimeraient cela, qui est plus Israël? J'avais un élève, c'était mon chavruta. C'est un converti. Il était extrêmement intelligent. Il était philosophe de métier.
brillant.
Et après, il a mal tourné. Aujourd'hui, il a refait tchouva, c'est bon. Mais à l'époque, il a mal tourné en nous quittant la Shiva. Et il est allé dans la gauche française. Et un jour, il parle. Et il dit, il faut absolument qu'Israël rende la moitié de son État aux Palestiniens. Alors, dans la salle, ses grands amis philosophes de gauche ont dit, non, ils rendent tout. Non, mais il leur a dit, mais c'est pas possible. Les Juifs ont droit à la vie aussi. Non, ils rendent tout. Rayons-les du nombre des nations, que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. C'était une gifle qu'il a reçue. Il est revenu, Baruch HaShem, il a fait tchouva. Car d'un commun accord, ils prennent des résolutions contre toi et ils font un pacte. Palestine, toutes sortes de... Ils demandent sans cesse de faire des sanctions contre Israël, et ils le font. Les tentes d'Édom, c'est l'Occident, les Ishmaélites, les Arabes, Moabites et Agrites, et là, le texte a commencé à citer beaucoup, beaucoup de peuples, qu'on ne sait pas aujourd'hui qui ils sont. Je reprends au verset 14. Mon Dieu, fais d'eux comme un tourbillon de poussière, comme du chaume emporté par le vent. Et ça, je dis à nos internautes qu'ils entendent. Dans peu de temps, vous allez voir ça de vos yeux, à moins que Poutine dise oui. Mais bon, on n'y croit pas. De même que le feu dévore les forêts, que la flamme embrase les montagnes, ainsi pourchasse-les par ta tempête, jette-les dans une fuite éperdue par ton ouragan. Couvre leur visage d'opprobre, de honte donc, pour qu'ils recherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confondus, terrifiés à jamais, saisis de honte et perdus. Qu'ils reconnaissent ainsi que toi seul as nom l'Éternel, que tu es le maître suprême de toute la terre. Très bientôt, Bezrat Hashem. Donc ce qui se passe est normal, il faut que Dieu les monte, et déjà ils leur montrent déjà la menace que c'est bientôt leur fin, et continuent leur bêtise, et ils vont tomber dans leur bêtise. À moins qu'ils fassent tchouva, à moins que Dieu ait pitié d'eux, ce qu'on espère, on veut ni des morts, ni toutes ces malédictions. Mais s'ils persistent à vouloir notre fin, Dieu veut que leur fin arrive pour qu'on ait, nous, notre fin belle, Bezrat Hashem, avec Mashiach. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.